Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre-Soirée, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut les amis, comment ça va? Oh là là. Bon, aujourd'hui, c'est pas la foire au jambon, c'est la première fois depuis un long moment où je dois faire un épisode qui va potentiellement me faire passer un mauvais moment. La dernière fois que j'ai pleuré au micro, c'était le 24 décembre pour le dernier épisode du calendrier. Ça m'a marqué à vie. Et aujourd'hui, on revient parler de choses qui fâchent. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Et le but de Contre-Soirée est d'aborder la vie dans toute sa complexité. Moi, il faut que je vous parle absolument de tout ce qui m'a marqué dans mon passé, tout ce qui me marque encore aujourd'hui, pour que vous ayez un 360 de ma personne et pour qu'on avance ensemble et qu'on connaisse nos faiblesses. En parlant de connaître nos faiblesses, j'ai fait un épisode avec Bastos sur son podcast Bastos Motivation qui s'appelle « Est-ce qu'il faut mieux travailler sur ses faiblesses ou sur ses forces ?» ou l'inverse, bref. Et le fait est que j'ai parlé de ma faiblesse, une de mes faiblesses principales, qui est le fait que j'arrive pas à faire confiance aux autres. Et cette faiblesse n'est pas née de nulle part, puisque je pars du principe qu'on est vierge de tout défaut et qu'en grandissant, on les développe. Et j'ai eu du coup, dans ma vie, un passage très compliqué qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui très très malheureusement. C'est ce qui me peine le plus et c'est ce qui fait que du coup, c'est un sujet qui peut être un peu compliqué pour moi parce que j'ai vraiment de la... J'ai déjà envie de pleurer, putain, ça va être compliqué. J'ai vraiment de la peine de me dire que j'aurais pu éviter ce passage sur mon chemin, que malheureusement j'ai pas réussi à l'éviter, mais que je méritais pas, j'ai de la peine pour la Anna innocente qui méritait pas ce traumatisme et qui du coup aujourd'hui a du mal à construire cette partie amoureuse de sa vie, parce que bon, alors ça fait partie du running gag du podcast que je suis célibataire depuis très longtemps, les points panda, les trucs les chouettes, mais en fait tout ça n'est pas anodin parce que vous allez le voir, plus le temps passe, plus je m'analyse et plus j'écoute les histoires autour de moi, plus je comprends pourquoi je suis comme ça et plus je me rends compte que ce que j'ai vécu, ça aurait dû être traité bien plus tôt et que ça a construit des trucs chez moi. J'ai passé cette période un peu sous le tapis parce que je considérais que c'était géré, que c'était terminé. Et en fait, je me rends compte que non. Enfin, que si, c'est terminé bien sûr, mais qu'en fait, ce qui me fout le plus la mort, c'est qu'en fait, ça m'a marqué. Et du coup, j'ai beau être passé à autre chose. Je pensais, en fait, dans ma tête, je pensais que passer à autre chose et passer outre cette personne signifiait que j'étais guérie. Et en fait, c'était que le début de la maladie, pratiquement, quoi. Parce que, certes, tu passes à autre chose, mais du coup, mon cerveau a enregistré toute cette histoire et ne veut pas reproduire ses erreurs. Donc, m'empêche de les reproduire par des moyens un peu chiants. Bon, bref. L'épisode d'aujourd'hui va parler d'amour sous emprise parce que, bien malheureusement, c'est le seul amour que j'ai connu. Alors encore une fois, je vais le redire, j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, j'ai pas envie d'attirer la pitié, et ça fait un an bientôt que ce podcast existe, et j'ai jamais dédié d'épisode à ce passage de ma vie, parce que j'en ai déjà parlé sur YouTube, dans une vidéo qui s'appelle « Ma pire et seule relation », « Ma seule et pire relation », « Mon unique et pire relation », bref, elle est épinglée sur ma chaîne YouTube, et parce qu'elle est vraiment d'utilité publique, donc je pensais que le fait d'en avoir parlé sur YouTube dans un contenu qui a été très vu, très marquant et qui moi m'a beaucoup touché et j'avais l'impression de m'être exorcisé un peu, ça suffisait. Et puis en fait, il s'est passé un truc récemment, il y a eu un drama entre gros guillemets qui s'est révélé sur les réseaux sociaux, c'est l'histoire Ilona Julien. Attention, c'est une histoire qui est pas du tout à prendre à rigolade, c'est une histoire qui se tient sur les réseaux sociaux, donc encore une fois, on n'a pas les tenants ni les aboutissants, on n'a jamais 100% de l'histoire et de ce qui se passe réellement et des personnalités des gens qu'on regarde, mais le fond est le même et les propos qui sont soulevés sont les mêmes. Et puis de toute façon, j'ai l'impression que l'intuition ne ment pas. Comme tout le monde, j'ai regardé la première vidéo d'Ilona, j'ai eu de la peine pour elle, parce que, alors, pour vous retracer très rapidement, même si je veux absolument pas que l'épisode soit relié à toute cette histoire, parce qu'on est des personnes différentes, mais Ilona a fait une vidéo pour expliquer que, malgré ce que la France entière croyait, donc malgré le fait que sa relation avec son ex-petit ami Julien semblait parfaite, extraordinaire, magnifique, que Julien avait l'air d'être l'homme le plus gentil du monde, et que... elle semblait d'être la femme la plus cinglée du monde, surtout à la télé, parce qu'elle faisait des crises qui étaient inexpliquées, parce que personne ne voulait dire la cause, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de secrets dans cette relation. En tout cas, le couple ne révélait jamais les causes de leurs embrouilles. Ilona a révélé que du coup, en fait, elle ne voulait pas en parler pendant tout ce temps, mais elle avait maintenant des problèmes d'argent à cause de Julien, et que donc elle assumait et elle expliquait à tout le monde que Julien avait en fait une emprise très forte sur elle, qu'il avait eu des actes de violence physique et psychologique, et que il la maintenait sous l'eau, puis hors de l'eau, puis sous l'eau, puis hors de l'eau. Bref, qu'en gros, il avait une emprise sur elle très forte. Dans la première vidéo, je trouve qu'on le ressent, mais pas à 100%, et je sais pas ce qui s'est passé. Dans la deuxième vidéo, je pense que c'est la partie où elle détaille le plus le côté emprise. Je l'ai regardée toute seule dans mon lit, et je vous jure, moi, mon histoire, je vais vous la raconter après, mais ça fait plus de 3 ans qu'elle est terminée. Et quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu les mêmes sensations d'angoisse et de mal-être profond que je ressentais à cette époque-là. Un état psychologique qu'à l'époque, j'avais du mal à discerner parce que j'étais tellement dedans que je me rendais même plus compte de ce qui était normal, pas normal. Mais en fait, un étouffement, un mal-être, un malaise, tout d'un coup, ça m'a repris en écoutant cette vidéo et en regardant cette femme raconter son histoire. J'ai pleuré tout ça et j'ai vraiment ressenti le fait que le terme emprise était exactement ce qui me correspondait. J'avais jamais réussi à mettre un terme dessus, un mot dessus, parce que je voulais pas utiliser l'adjectif pervers narcissique par rapport à la personne avec qui j'ai vécu cette relation, parce que je ne suis pas psychologue. D'ailleurs, je tiens aussi à le préciser pour la totalité de ce podcast, je suis pas psychologue, donc tout ce que je vais dire, c'est pas des propos professionnels. Et donc, je voulais pas tirer des diagnostics sans avoir de recul professionnel, quoi. Et je sais pas pourquoi j'avais jamais considéré ou je m'étais jamais approprié le mot emprise. Et ce truc d'emprise, ça m'a vraiment percuté de plein fer. Et je me suis vraiment dit, c'est moi, j'ai vécu ça. C'est ça, le truc qui... Le mot, la situation et ce que j'arrivais pas trop à expliquer et tout, c'est exactement ça. Et donc, ça m'a vraiment bouleversé cette vidéo et ça m'a vraiment chamboulé. J'ai du coup pris mon téléphone, était sur Doctolib et cherchait de façon hystérique un psychologue, parce que je me suis dit, en fait, ça fait un moment que je dis que de toute façon je devrais aller voir un psy, parce que tout le monde devrait aller voir un psy, que je me sens bien dans ma vie, et que donc je peux affronter le fait de voir un psy et de parler de trucs qui sont pas forcément top par rapport à mon passé et tout, même si ça me fait chier, et du coup j'arrive pas à franchir le cap parce que j'ai peur. Et là d'un coup je me suis dit, mais oui, en fait c'est ça, il faut le faire, parce que tout s'explique par rapport à cette emprise. Tous mes problèmes relationnels sont liés à ça, au fait que en fait j'ai enregistré dans mon cerveau que relation d'amour égale relation d'emprise. Et j'ai l'impression que le schéma sera toujours le même, que je rencontrerai quelqu'un qui au début il sera normal et gentil, que donc je lui accorderai ma confiance, et qui va finir par avoir le pouvoir et le dessus sur moi. Et je suis traumatisée, véritablement traumatisée de ça. J'ai une peur bleue, j'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde, que l'homme avec qui je serai aura toujours un pouvoir d'emprisonnement et de domination sur moi, quoi. Et du coup je suis terrorisée de ça, et donc c'est pour ça que j'ai des énormes problèmes de confiance et que je repousse l'amour à tout prix, et que j'ai du mal à avancer vers ça, et que j'ai l'impression que ça n'existe pas. Et donc je me suis dit, mais oui, voilà, il faut que j'aille parler de cette relation, en fait, parce que j'en ai jamais parlé. Du coup, depuis que ça s'est fini, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Moi, vous le savez, vous avez commencé peut-être à le comprendre avec Contre-soirée, je suis une pro de la psychologie de comptoir et de l'auto-analyse, donc c'est bien un temps, mais je pense qu'il y a des blessures plus profondes qui doivent être traitées par un professionnel, et donc il faut que je le fasse au bout d'un moment, et je l'ai jamais fait pour ce problème-là. Et bref, du coup, tout ça m'a remonté, tous ces sentiments. Et je me suis dit, en fait, il faut absolument que j'en parle. Pas forcément de la totalité de la relation, mais du côté emprise et de ce que ça peut faire vivre à une personne, j'ai aussi envie de faire cet épisode pour que ceux et celles qui n'ont jamais connu l'emprise comprennent à quel point c'est dur et à quel point la phrase « si la relation elle est si horrible, tu retournes pas » est fausse. C'est bête, ça paraît bête, mais je vous jure les gars que la relation peut être terrible, la relation peut être l'enfer sur terre. Et pour autant, les gens ont un pouvoir de persuasion et d'emprise justement et de manipulation qui fait que tu ne peux pas t'empêcher d'y retourner. Je fais aussi cet épisode pour ceux et celles qui l'ont vécu et pour qu'ils sachent encore une fois qu'ils sont pas tout seuls. Et je le fais aussi pour ceux qui vont m'écouter et qui vont se dire « Oh oh, est-ce que c'est moi ?» pour que ces gens-là prennent conscience et agissent. Bon, on va commencer par vous développer un peu ma situation. J'ai pas envie, en fait, ça me gêne de parler de ça. Pas parce que j'ai honte, parce que j'ai aucune honte avec le fait de m'être fait rouler dans la farine, mais surtout parce que j'ai pas envie de donner l'impression que je me sers de cette histoire pour faire mon beurre. Parce que je trouve que c'est malsain au possible et c'est vraiment pas ce que je veux. Et je pense que c'est un sujet dont il faut parler, comme tous les sujets dont on parle sur le podcast. Je me suis un peu documentée, du coup, depuis ces quelques jours sur ce terme-là de l'emprise et cette relation d'humain à humain. Et en fait, le schéma est exactement le même. C'est impressionnant. Je vais vous donner une petite définition de emprise pour qu'on se remette encore tous une fois dans le bain. L'emprise psychologique est une forme de violence, d'ascendance, de manipulation mentale, voire de torture psychique utilisée par une personne sur sa victime pour parvenir à ses fins. C'est un mécanisme souvent progressif, insidieux et récurrent, qui brouille les pistes et finit, dans les cas extrêmes, par dépouiller la victime de son libre arbitre et de sa personnalité. Cette emprise peut se mettre en place dans des cellules affectives et sociales aussi variées que le couple, le travail par un collègue, l'amitié, la famille, et pour finir, le plus grave, une secte. Donc voilà, là c'est un exemple, c'est vrai d'ailleurs, l'épisode s'appelle l'amour sous emprise, mais ça marche aussi pour l'amitié sous emprise, le travail sous emprise. L'emprise c'est comme je viens de vous le dire, hein, quelque chose qui s'applique à toutes les sphères relationnelles. Pour moi, comment cette histoire vraiment, tout simplement insupportable a commencé, j'avais 20 ans et j'avais jamais eu de relation de couple. J'ai rencontré cette personne sur les réseaux sociaux et il a très vite fait ce que j'ai découvert récemment et ce qui fait partie du mécanisme du love bombing. Donc ça consiste à couvrir la personne en face de vous d'amour, à donner énormément d'affection très vite. Très vite, ce garçon voulait m'appeler, me voir, passer toutes ses soirées chez moi, m'écrivait toute la journée, me disait qu'il n'avait jamais ressenti ça. Très vite, il a voulu qu'on se mette en couple. Voilà, il m'a donné énormément, très vite, sachant que pour moi tout ça c'était nouveau et c'était autant étonnant que agréable. J'ai lu un thread Twitter sur l'histoire de Ilona et Julien. On voit quand on regarde des extraits qu'au début de leur relation, Julien couvre Ilona d'amour et lui propose monts et merveilles. Et Ilona dit très clairement « Je crois que c'est trop, je comprends pas pourquoi il me donne autant, j'hésite, je sais pas ». Et pour moi, c'était exactement la même chose. J'étais vraiment en mode, il pète un plomb le coup, c'est beaucoup trop. Presque, j'y crois pas. Et à la fois, j'avais un peu envie d'y croire parce que, bah, on va pas se mentir, c'est quand même très agréable d'avoir tout cet affect, tout ce confort, de sentir qu'une personne vous apprécie, vous aime presque. Bah, c'est très agréable. Et donc, c'est vrai que je me suis habituée au fait qu'ils m'écrivent tous les matins, tous les soirs. Et donc, je commençais à accepter sa présence dans ma vie. J'avoue que j'ai eu des conversations avec mes amis durant le premier mois où je disais « Ouais, je sais pas si ça va le faire, je le trouve quand même un peu intense et tout. » Et puis, il y a eu la première étape, enfin le premier choc, quand il m'avait bien habitué à toute cette présence, toute cette affection, toute cette attention, tout cet amour que moi je n'avais pas. Ça faisait 2 ans que j'habitais seule, que j'avais pas eu de relation de couple, et donc là d'un coup je me retrouvais avec la présence d'un homme dans mon quotidien. Alors attention, en plus tout ça se passe quand j'ai 20 ans, donc à 20 ans certes j'avais un cerveau et j'étais une adulte, mais j'étais quand même encore bien naïve et bien fragile. Même si j'avais déjà un gros caractère, c'est aussi d'ailleurs un des trucs que je me suis toujours demandé. Je me suis toujours dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi, moi qui suis si caractérielle, qui suis une grande gueule, qui sait où elle va, qui a déjà une situation et tout. J'avais l'impression que ce genre de situation, ça arrivait aux petites choses fragiles et aux jeunes filles qui ont été très marquées par la vie ou alors qui sont très renfermées, introverties. Alors ça arrive aussi, mais j'ai lu que c'est aussi un challenge supérieur pour la personne qui décide de faire de toi sa victime, parce que bah, c'est plus compliqué de te foutre dans la poche quand t'as un gros caractère, que t'es très entouré et tout. Bref, au bout de 2 mois, je pars en voyage en Suède, voir ma meilleure amie qui habitait là-bas, et c'est ce moment-là que choisis ma personne pour... Non, j'ai pas envie que ce soit ma personne en plus. Ah, bah on va l'appeler Samuel, de toute façon il s'appelait déjà Samuel dans mon premier podcast qui s'appelle « À tous les garçons que je n'ai pas aimé ». Donc c'est à ce moment-là que je choisis Samuel pour me quitter, alors que tout allait bien, que j'avais aucun soupçon sur lui, je le trouvais juste un peu envahissant et intense. Mais je me disais, c'est peut-être sa façon d'aimer. Vu qu'en plus, j'étais dans une période où je partais beaucoup par mon métier, enfin par l'influence, je partais beaucoup en voyage et tout, j'étais pas souvent là. Je sentais que lui, il était déstabilisé par ça. Et donc, Samuel décide de me quitter par message un matin en me disant, écoute, je me suis rapprochée d'une autre fille. Je pense que toi et moi, on va pas pouvoir aller plus loin. Je préfère te quitter avant que ça aille trop loin avec l'autre fille et que je te manque vraiment de respect. Donc, c'est fini. Là, pour moi, le monde s'écroule. Je ne sais pas si j'étais amoureuse, mais en tout cas, j'étais très attachée à cette personne. J'en avais parlé avec tous mes amis, trucs. Enfin, c'était vraiment devenu un truc, quoi. Et puis, on était vraiment en couple officiellement pour la première fois de ma vie. Et donc, je suis dévastée. Ça me choque profondément. Vraiment, ça me fait un très gros choc. Je pleure. Je passe 1 heure en FaceTime avec mes 3 meilleures amies que j'appelle ma famille. Et que du coup, qui me sont vraiment eux aussi, qui ne comprennent pas ce qui se passe. J'écris à Samuel, explique-moi, j'essaie de l'appeler, il répond pas. Je lui montre que ça me choque. Samuel ne me dit pas un mot de toute la journée et le soir, il répond à ma story avec un cœur. Donc moi, je suis vraiment en mode quoi ? Et quand je rentre en France, 2 jours après, il m'a donc bien gâché mon séjour et il m'écrit pour me dire en gros, écoute, c'est pas vrai, j'ai changé d'avis, je voulais juste voir si t'étais attachée à moi, donc remettons-nous ensemble, je voulais pas te quitter, je voulais juste voir si tu m'appréciais vraiment. Pour moi, là, dans cette action-là, l'exemple est parfait et on entre vraiment dans le début de la relation d'emprise. Et là où moi j'ai eu tort et où j'aurais dû dire « c'est pas possible de se comporter comme ça, personne ne fait ça, au pire des cas, si t'as envie de me tester et de voir si je t'aime vraiment », on l'a tous déjà fait, je sais pas, même si c'est très malsain et je ne veux que personne fasse ça en m'écoutant, mais ne m'écris pas pendant 3 heures et vois si je te relance, enfin je sais pas, fais des petits tests comme ça, mais ne fais pas semblant de me quitter pendant 3 jours, genre, enfin, impossible. J'aurais dû dire, ok, bah c'est fini, et j'ai dit, d'accord, je te reprends et je reviens. Et je pense que là, du coup, lui, il a compris qu'il m'avait dans la poche, presque il a pris goût à ce truc-là. J'étais du coup dans le truc de oh, je l'ai perdu, j'ai vu à quel point ça fait mal de le perdre et du coup je veux plus jamais le perdre. J'ai plus confiance aveuglément dans la relation, j'ai plus le dessus, parce que j'avais un peu le dessus sur le truc. Cette relation qui de base commençait d'une manière ravissante, et c'est souvent d'ailleurs le cas des relations sous emprise, la personne en face ne donne aucun signe d'agressivité ou quoi que ce soit, s'est transformée en une relation complètement instable, où en fait j'étais constamment dans la demande de son attention, son affection, et lui était complètement aux commandes de tout ça. Il me soufflait le chaud et le froid, il allait être très gentil pendant une période de... Alors parfois c'était des semaines, parfois c'était des heures. Il allait être très gentil, puis d'un coup il allait péter les plombs, je suis super malade. Il me dit, je vais être là pour toi et tout, tu me fais trop de peine, je veux que je t'amène des médicaments, truc, machin. Il vient chez moi, je suis vraiment pas bien, j'ai de la fièvre et tout, je suis au lit, j'arrive plus à bouger. Bah attention, je vais tenir des propos qui sont un peu choquants, mais c'est la vérité. Il veut coucher avec moi, moi je veux pas. Et il me fait une crise en me disant, mais t'es une égoïste, t'es une mauvaise personne, tu te prends pour qui ? Moi je fais tout ça pour toi, je viens pour toi, et toi t'es même pas capable de faire ça pour moi. Alors que moi, j'ai 42 fièvres, j'ai la grippe et j'arrive pas à bouger, genre. Et en fait, je résiste comme ça pendant 3 heures, 4 heures en disant je suis malade, j'ai pas envie. Il me fait tellement culpabiliser, il me fait me sentir une mauvaise personne que je finis par céder. Très très grave, impossible, inacceptable. Quand il était chez moi à 1 heure du matin, qu'on était tous les deux dans le lit, ça c'est vraiment un super bon exemple aussi. Où on est dans un confort, moi je suis bien, je suis détendue, j'ai baissé mes armes, je suis en pyjama, je suis dans... dans le plus simple de ma personnalité, de ma personne, quoi. Je suis dans mon confort, dans mon intimité. Je suis avec lui, je suis détendue, apaisée. Et d'un coup, il décide qu'il va partir parce qu'il est pas bien. J'ai fait un truc qui lui a pas plu alors que vraiment, je n'ai rien fait. J'ai dit un truc qui lui a pas plu, j'ai dit une phrase qui lui a pas plu, je lui ai refusé un truc. C'est minuit, il fait son sac et il part. Et donc moi, je suis vraiment brusquée, genre, je suis bouleversée, voilà, j'étais vraiment au maximum de mon confort et je suis jetée dans le maximum de mon inconfort. Et du coup, je suis complètement déboussolée. Du coup, je l'appelle en disant « Mais ça va pas, ça va pas ». Du coup, il me dit « Je reviens alors ». Il sonne, je le rouvre, il remonte, il redéfait sa valise, il s'enlève son manteau et je me dis « Je vais en profiter maintenant qu'il est là et je vais être super gentille avec lui ». Et donc, ce système s'est installé entre nous. Je passe au-dessus parce que quand il est là, il est tellement drôle, il est tellement gentil. Quand il est dans les bons jours, ça me fait tellement du bien et je me sens tellement bien avec lui. Et au moment où il me lâchait et où il était distant, où il était méchant, j'étais éteinte. Et du coup, je calculais tout en fonction de lui. Ça veut dire que je prenais mes décisions par rapport à lui. Quand on allait en soirée, je gardais mon téléphone tout le temps pour voir s'il allait m'envoyer un message. Je prévoyais rien quand on n'avait pas prévu un truc ensemble au cas où il me demande de le voir. J'étais complètement dépendante de cette personne. Et puis, a commencé la phase de rabais. Pas les soldes, mais bien le fait qu'il rabaissait ma personnalité et mon physique. Ma personne en me disant que j'étais égoïste. L'égoïsme, c'était vraiment ce qui me reprochait le plus. De base, j'ai envie de donner. Et en plus, c'était un moment où je commençais à bien gagner ma vie. Du coup, je trouvais ça normal de donner. Donc, je l'avais habitué à, quand je partais en vacances ou quand j'étais pas là en déplacement et tout, à lui commander de Uber Eats parce que lui, il avait en plus un problème de dépendance au jeu pour ne rien arranger. Donc, il avait jamais d'argent. Il était sur des paris en ligne tout le temps et tout. Je m'étais habitué et l'avais habitué à lui faire des commandes Uber Eats. Donc je lui commandais des McDo, des pizzas, même des courses dès que j'étais pas là et je le faisais livrer chez lui. Et puis il a du coup voulu plus et il m'a du coup un jour demandé de lui acheter une PlayStation quand on était du coup au max du fait qu'il était fou, enfin qu'il était méchant avec moi. Et donc moi je voulais pas être généreuse à ce point-là, enfin je me disais franchement non, je me respecte pas là, je peux pas lui donner 300 balles comme ça alors que c'est un monstre avec moi. Donc je lui avais dit non, il m'avait fait culpabiliser pendant des jours en me disant que j'étais une égoïste, que je l'aimais pas, que je pensais qu'à ma gueule et que j'étais mal élevée. Et heureusement, il me restait encore un petit peu d'amour propre pour me dire non, je peux pas faire ça, franchement je peux pas faire ça et je l'ai jamais fait, Dieu merci. Et puis sur le physique, il me critiquait sur mon poids. Donc j'ai déjà jamais eu beaucoup de confiance en moi à ce niveau-là. Depuis que j'ai 12 ans, j'ai l'impression d'être trop grosse, donc j'étais mal partie sur ça. À un moment, au maximum, il prenait mon téléphone pour aller sur Uber Eats et commenter mes commandes Uber Eats pour me culpabiliser et me faire comprendre que je mangeais trop. Tout ça, c'est des comportements que j'ai banalisés, que j'ai moi-même enregistrés, que j'applique à moi-même. Du coup, maintenant, alors maintenant que je suis consciente, j'essaye de pas le faire au maximum, mais tout ça, je l'ai pris, en fait. Je l'ai pris et en fait, j'ai tellement dû vivre avec parce que j'étais tellement sous emprise de cette personne que je ne pouvais pas partir. Et donc, j'ai dû trouver un moyen de vivre avec ça. Enfin, les signes qui alertent sur l'emprise, c'est que, par exemple, la personne victime de violences psychologiques a une faible estime d'elle-même car la personne dominante va justement s'imposer en vidant l'essence de sa victime. Exactement ce que je ressentais. La victime vit avec la peur constante de perdre l'autre. Elle est dépendante et se sent incapable de vivre sans l'autre. Exactement ce que je ressentais. Ça veut dire que j'ai des dizaines de fois où je rentrais de soirée quand il ne me répondait plus. Donc je quittais la soirée parce que j'en pouvais plus. J'attendais juste qu'il me parle et il ne me parlait pas. Donc je rentrais et je pleurais pendant 3 heures en fixant un point dans le mur. Et moi j'avais l'impression que c'était ça l'amour. Alors que c'est vraiment pas ça l'amour, mais j'avais vraiment l'impression que c'était ça une relation. Le dominant culpabilise sa victime s'il ne parvient pas à ses fins, exactement ce que je vivais en permanence. Tous ces symptômes étaient présents quotidiennement, et donc j'ai dû apprendre à vivre avec, et j'ai dû banaliser ça, tolérer ça, pour que je l'accepte et que je n'en souffre pas trop, même si j'en souffrais énormément. Pendant toute cette période, donc ça a duré 3 ans à peu près, j'avais l'impression de me battre avec un ennemi invisible, avec une force dans mon cerveau, un petit méchant dans mon cerveau que j'arrivais pas à contrôler, tout le temps. Et donc je devais, dès que j'en avais assez de force, me dire « Allez, éloigne-toi, prends de la distance, détache-toi », ce qui me demandait un effort énorme. Et lui, dès qu'il sentait ça, soit il me piquait, ça lui est arrivé plusieurs fois, de m'envoyer des photos avec d'autres filles, de m'envoyer un snap avec une fille dans son canapé. Voilà. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me répondait pas pendant plusieurs heures. Et après, il me disait, c'est une meuf de ma classe, je l'ai aidé à faire ses devoirs. Et puis, il avait une autre technique qui était, je me rappelle d'un été où moi, j'étais en mode, ok, bon, allez, ça suffit, c'est terminé, je plus là, je vais péter les plombs, donc on arrête. On arrêtait de se voir pendant un mois. Et puis d'un coup, lui, il devait en avoir marre d'attendre, ou je sais pas, il devait sentir que j'étais plus trop dans ses filets, même si je l'étais, hein, mais je me contrôlais chaque matin pour pas écrire de message. Je pars à tout mon Roland et je reçois, je t'aime, en plein milieu de la journée, alors qu'il me l'avait jamais dit, par SMS. Alors que moi, je suis à mon troisième mojito, que je suis au festival où je rêvais d'aller depuis des années, que je me sens bien pour une fois, je reçois « je t'aime » de sa part. En fait, c'était que des trucs comme ça. J'ai vécu cette relation pendant 3 ans. À un moment, cette emprise est devenue beaucoup trop... Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais même plus comment ça s'est déroulé, mais lui, il a dépassé plein de limites. Il y a eu plein d'actions. Alors moi, après, je suppose que, comme Ilona le raconte dans sa vidéo... Elle était devenue complètement horrible et désagréable, et c'est exactement ce que moi je vivais aussi. J'étais devenue exécrable parce que je souffrais tellement et j'arrivais pas à lui donner de l'amour parce que je le trouvais tellement méchant et détestable que bah, c'est hyper contradictoire, mais je le fréquentais en étant méchante. Et j'étais pas du tout saine non plus, j'étais méchante, j'étais pas gentille, et c'est vrai, ça je dirais pas le contraire. Donc je pense que j'ai des fois eu des réactions ou des comportements qui étaient pas gentils et qui étaient pas sains, mais en même temps, je faisais face à des mois, voire des années de manipulation et de souffrance. Donc il y a un moment où j'en pouvais plus et j'étais plus moi-même. Et en fait, j'étais presque, avec du recul, dans une réalité alternée où je ne maîtrisais plus rien de ce qui se passait. J'essayais juste de survivre avec un peu de lui dans ma vie. Bref, pour en finir avec cette histoire, on est parti en Erasmus en même temps, dans deux endroits très différents du monde. Et puis il y a eu le confinement, donc ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de se revoir. Et donc on a été séparés pendant à peu près 6 mois. Je sais pas, j'ai l'impression que le fait d'avoir été éloignée de lui, ça m'a permis de me reconnecter à la réalité en fait. Et de plus avoir ces doses quotidiennes, mensuelles, hebdomadaires de lui, ça m'a permis de me rendre compte que j'en avais pas tellement besoin en fait. Et que j'ai nagé en plein délire et que ma personne était en fait très importante. Et franchement, je vous jure que... ça m'a sauvé, vraiment, ce confinement m'a sauvé parce que bah du coup j'ai repris du temps pour moi, pour penser à moi, pour faire du sport, pour me reconnecter à moi-même et pour me rendre compte d'à quel point j'étais chamée. Alors attention, à l'époque je vous aurais dit que je me sentais bien, hein, mais je savais qu'au fond il y avait un truc qui allait pas et puis tout le monde le savait. Cette partie-là n'allait pas du tout quoi, et je faisais tout pour ne pas y penser. Je l'ai revu une dernière fois en décembre 2020. Il m'avait supplié de venir chez moi pour qu'on s'explique. Il est venu chez moi, je l'ai foutu dehors au bout de 20 minutes parce que je supportais plus sa présence. On s'est écrit de temps à autre parce que voilà, on va pas se mentir, moi aussi j'avais une vengeance à prendre quand même. Donc ça m'a fait du bien de temps en temps des fois de me rendre compte que je pouvais lui dire « Eh non, va te faire foutre !» et que ça me faisait pas mal au cœur. En tout cas, ça fait vraiment 2 ans et demi, 3 ans que je suis sortie de cette histoire et que j'en suis très fière. Depuis que je suis plus dans cette relation, j'ai glow up de toute évidence mentalement, psychologiquement, physiquement. Je suis plus la même personne, j'ai tellement évolué, j'ai tellement changé. Je pense que c'est l'âge, mais je pense que c'est aussi le fait que j'ai plus cette influence terriblement néfaste pour me tirer vers le bas. En fait, après avoir posté cette vidéo, j'ai eu des dizaines de témoignages de personnes, de filles qui m'écrivaient « J'ai reconnu de qui tu parlais par l'histoire ». Parce que son comportement est tellement symptomatique qu'en fait on le reconnaît. J'ai jamais dit son nom. Et les filles me disaient son nom et me disaient j'ai reconnu par son système de fonctionnement qui c'était et par l'emprise qu'il essayait d'avoir sur les gens. Sur moi ça a marché, malheureusement sur d'autres ça n'a pas marché. Il s'est avéré par malchance qu'il est sorti avec une fille de mon entourage. Je sais pas comment c'est possible. Cette fille, je lui ai jamais parlé, mais elle est très amie avec des amis à moi, donc elle connaît cette histoire. Je sais pas comment ça s'est fait, mais bref, ils se sont fréquentés, et elle s'est retrouvée elle aussi sous son emprise, et elle en a beaucoup souffert. Et donc lui m'a écrit, et je lui ai dit, écoute mon grand, déjà c'est vraiment pas à moi de te consoler sur ce truc-là, parce que lui était en mode... chier, putain, ça se reproduit tout le temps. Je dis, ah, mon grand, mais bon, je vais peut-être pas t'expliquer pourquoi t'es un connard. Mais du coup, je lui ai quand même dit, parce que moi, je veux toujours que les gens comprennent ce qui ne va pas et ce qui va. Donc, je lui ai dit, écoute, j'ai eu beaucoup de témoignages. Cette personne, elle a le même avis que moi. Tu penses pas que c'est à toi de te remettre en question quand même, parce que c'est quand même globalement le même fonctionnement, le même schéma, et ça va pas du tout, quoi. Et il m'a dit, c'est vrai que j'ai un énorme manque de confiance en moi, et j'arrive pas à le combler. Et j'ai besoin tout le temps qu'on me prouve qu'on m'aime. Alors, on ne peut jamais justifier ce comportement, j'espère que c'est bien clair, mais est-ce qu'on peut expliquer ce comportement par le fait, par un manque de confiance qui fait que la personne a besoin d'être complètement dans l'emprise et dans la possession de la personne en face de lui pour sentir que voilà, il est bien, qu'il est stable et qu'il est à l'aise et que cette personne ne partira pas? C'est possible. En revanche, c'est bien de le savoir, mais en fait, si tu le sais, il ne faut pas le faire, quoi. Et vraiment, c'est un peu la conclusion de cette histoire, c'est que s'il y a des personnes qui ont ce genre de pratique et qui m'écoutent, par pitié, épargnez les gens autour de vous. Moi, tout au long de cette histoire, j'ai douté. J'ai douté de moi, j'ai douté de est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort, est-ce que j'étais folle. Lui, il m'a toujours fait remettre en question ce que je disais. Et du coup, je me suis toujours demandé si j'exagérais pas, si j'étais pas complètement à côté de la plaque. La réponse est non, j'en suis sûre aujourd'hui. Parce que ce que je ressens, la façon dont j'ai souffert, la façon dont j'ai été affaiblie, et ce que j'ai ressenti il y a une semaine en regardant cette vidéo, par rapport au témoignage de cette femme sur ce qu'elle vivait, c'est pas des mensonges, c'est pas extrapolé, c'est vraiment quelque chose que je ressens au fond de mes entrailles, qui est inexplicable et qui est vrai. Je sais à quel point agir, c'est dur quand on est dans cette situation. Et du coup, je vais vous donner les conseils que j'aurais aimé donner à la Anna de 2017. Consulte déjà un psychologue, vite. Si tu es dans ce cas-là, que tu sens que ta relation commence à t'échapper, que tu es dans un système malsain, prends rendez-vous avec un psychologue, même si ce n'est qu'un rendez-vous. Moi, j'aurais tellement dû, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, j'aurais tellement aimé le faire pour que le psy me dise « c'est pas bien ». Après, je pense que je savais tellement que ce n'était pas bien que je ne voulais pas qu'on me le confirme, mais prends un rendez-vous avec un psychologue, fais-toi un peu violence. Si tu n'arrives pas à prendre un rendez-vous avec un psychologue, parle-en à tes parents ou à des proches. Essaie d'en parler à des gens qui ne sont pas dans ton quotidien, qui ne connaissent pas cette histoire totalement, pour qu'ils te fassent prendre conscience que c'est pas normal et que c'est pas bien. Et puis, fais un travail sur toi pour te recentrer et comprendre que t'as une valeur qui est énorme et que en te laissant manipuler, abattre, tu te manques de respect. Moi, vraiment, c'est ça le plus gros travail que j'ai eu à faire du coup pour me reconstruire, c'est de reprendre confiance en ma valeur, de savoir ce que j'étais, ce que je voulais, de reprendre confiance en mes qualités, de me sentir capable de nouveau, parce que bah en fait cette personne m'a manqué de respect et je me suis laissé manquer de respect et j'aurais aimé me dire à l'époque mais ça va pas la tête. Et du coup c'est pour ça qu'actuellement moi je suis très extrême, j'ai tellement souffert de ça que je ne veux plus jamais que quelqu'un me manque de respect et je ne veux plus jamais vivre cette situation. Bah, je suis un peu triste de me dire qu'une personne comme moi a perdu autant d'années à croire qu'elle aimait, se faire manipuler, pleurer, souffrir et puis devoir apprendre à se reconstruire. Je suis dégoûtée en fait, franchement avec le recul. Là en fait, plus je vais bien dans ma vie, plus je me rends compte que j'ai l'impression que je vais pas réussir à me laisser aller à être avec quelqu'un d'autre et j'ai tellement peur de refaire le mauvais choix et de redonner ma confiance à quelqu'un de mauvais que du coup je donne ma confiance à personne et que je suis très très dure. Je suis presque parano parce que j'ai l'impression que du coup chaque signe d'affection est une manière de me love bomber et de m'amadouer avant de mieux me la mettre à l'envers et donc du coup ça fait que je suis parano, je suis trop dure, je suis toujours dans l'attente du moment où ça se passe mal et puis j'ai tellement pas envie, j'ai tellement l'impression que l'amour est égal à la dépendance que du coup bah je suis effrayée par tout ça et je le priorise pas du tout et j'ai peur de tout ça. Ça fait tellement de la peine, j'ai tellement de la peine pour Ilona, j'ai tellement de la peine pour moi, j'ai tellement de la peine pour toutes les femmes, pour toutes les personnes qui ont subi ça, je comprends pas pourquoi et comment t'en arrives à faire souffrir une personne comme ça. Ça me fait tellement chier, je suis tellement triste pour la petite Anna de l'époque qui pleurait en écoutant Damso dans son 18 mètres carrés en se disant pourquoi il m'aime pas comme il devrait m'aimer, pourquoi il est méchant comme ça avec moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir mal au cœur en permanence. C'est la conclusion de tout ça. Je trouvais ça vraiment important quand même les gars de qu'on s'en parle. Avec en plus le recul que j'ai sur la vidéo que j'ai faite il y a deux ans, je crois. J'ai quand même évolué depuis et du coup, je peux en parler un peu différemment. L'emprise, c'est réel. Quand vous avez une amie, une personne en face de vous, peu importe, qui est dans une relation compliquée et qui agit d'une manière que vous n'appréciez pas, que vous ne reconnaissez pas, que vous ne tolérez pas, c'est important de rester là pour cette personne et de soutenir cette personne. C'est ce que mes amis ont fait et je les remercierai jamais assez parce que quand j'ai réussi à me détacher, j'étais pas seule. Et je pense que si j'avais été seule et que j'avais pas réussi à comprendre et à me dire que j'avais des épaules ailleurs, j'aurais jamais réussi à me barrer et à me dire non mais ça va pas la tête. Donc j'avoue que j'ai la chance inouïe d'être très bien entourée, même mes parents et tout me donnent de l'amour et me font ressentir une bonne personne. Je tiens aussi à rappeler que l'amour sous emprise n'est pas véritablement de l'amour. En tout cas, qu'une personne qui vous aime pour les bonnes raisons, qui vous aime profondément et qui pourra vous aider à construire une relation saine, simple et positive ne fonctionnera pas comme ça. Et que quand il y a de l'emprise dans l'amour, souvent il faut que ça s'arrête. Je tiens aussi à vous rappeler que si les violences deviennent physiques ou que si la violence psychologique devient trop dure pour vous à gérer ou si vous avez besoin d'aide, il y a un numéro qui est le 3919. C'est un numéro qui est anonyme et gratuit. Si vous appelez ce numéro à toute heure du jour et de la nuit, vous aurez l'aide dont vous avez besoin. On peut s'en sortir si vous êtes dans une relation compliquée en ce moment. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais à quel point ça affecte le quotidien. C'est aussi ça la vie, c'est aussi des obstacles. Des fois on rigole, des fois on rigole un peu moins. Je vous promets que le prochain épisode, il sera quand même un peu plus marrant. Je fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous par pitié. Ne vous laissez pas tournicoter par des bolosses. On est ensemble. À la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.